Donc, je vais vous parler, comme petite dynamique d'urbanisation autour des villes, je vais beaucoup vous parler du périurbain et pourquoi on produit des maisons, on construit des maisons dans certaines parties du périurbain et pourquoi on n'en construit pas dans d'autres parties du périurbain. Alors, vous avez sans doute tous déjà entendu parler de pénurie foncière. Si vous avez lu le dernier livre blanc du Syndicat national des aménageurs lotisseurs, le SNAL, on y parle beaucoup de cette question de manque de foncier où construire. Pourtant, si on regarde les chiffres, alors ça va sans doute baisser dans les années qui viennent, mais enfin, on construisait quand même plus de 230 000 maisons individuelles en 2006, ce qui est quand même un chiffre assez important. Dont 80% en ce qu'on appelle l'individuel pur. Alors le problème en fait n'est pas tant qu'on manque de foncier ou construire des logements que le foncier disponible ne se trouve pas là où on voudrait qu'il soit. C'est surtout ça le problème. Le problème est que le foncier se trouve plutôt loin des centres, dans le lointain périurbain, dans les lointaines couronnes périurbaines, et moins ailleurs. Alors pour comprendre ce qui se passe, et notamment ce qui se passe dans le périurbain, il faut partir des communes. Donc je vais beaucoup insister dans cette première partie de ma présentation sur les logiques des communes, parce que ce sont elles qui, surtout dans le périurbain, elles ont globalement la pleine maîtrise, décident de l'ouverture ou non à l'urbanisation d'un certain nombre de terrains. Cela depuis assez longtemps, depuis au moins les lois de décentralisation du début des années 80. Alors, quand on regarde quelques chiffres qui sont ceux de l'INSEE, la définition que je vais utiliser ici du périurbain est celle de l'INSEE. Je peux peut-être très brièvement la rappeler. Elle est discutable, elle a le mérite d'exister et de permettre de donner des statistiques, un certain nombre de chiffres. Donc la définition du périurbain, elle s'articule autour de deux critères. Un premier critère qui est un critère de dépendance fonctionnelle, mesuré à partir du nombre de personnes actives qui travaillent dans l'aire urbaine, donc qui travaillent hors de leur commune, mais dans l'aire urbaine. Donc le seuil est fixé à 40% de la population active. Et puis, je simplifie parce qu'il peut y avoir des communes multipolarisées aussi dont la population active se distribue dans plusieurs aires urbaines. Et puis un critère de paysager, de séparation physique, c'est-à-dire il y a une distance d'au moins 200 mètres entre la zone bâtie continue de l'agglomération et la zone bâtie la commune. Donc on a ces deux critères qui permettent de définir le périurbain. Je donnerai quelques photos un peu plus tard pour pouvoir visualiser. Je pense que vous avez tous une idée de ce à quoi ça ressemble. Enfin, c'est bien de pouvoir visualiser les choses parfois. Mais avant de montrer les photos, quelques chiffres. Et on voit très clairement que les enjeux aujourd'hui se situent dans ces fameuses couronnes périurbaines et espaces multipolarisés, donc qui forment l'ensemble des communes périurbaines. On a une croissance de la population totale entre 90 et 99 qui est quand même de plus 33%, alors qui est aussi liée à une extension spatiale. Hein. Ce n'est pas simplement les communes périurbaines qui ont connu une augmentation de population de 33%, c'est aussi parce qu'on a une augmentation du nombre de communes périurbaines, plus 43%. Ce qui représente en valeur absolue plus 4527 communes sur une période de 10 ans, ce qui est énorme. Et les chiffres du dernier recensement, vous savez maintenant on a changé la manière d'établir le recensement, on va avoir sans doute des données en 2009 sur l'espace, des données nationales sur le périurbain en 2009 ou peut-être en 2010. Enfin, tout indique que les tendances qui sont là se sont peut-être légèrement atténuées, mais se sont poursuivies avec les mêmes ordres de grandeur. Je vais vous donner d'autres chiffres. En nombre de communes, en 1999, on a près de 15 000 communes périurbaines et 12 millions de périurbains. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on a environ 20 000 communes périurbaines et 15 millions de périurbains. Donc des chiffres qui commencent à être assez importants et d'ailleurs qui pose sans doute un certain nombre de problèmes pour la pérennité de la notion même, la catégorie même, catégorie statistique du périurbain. Hein. On peut se demander si ça ne va pas connaître le même destin que les zones de peuplement industriel et urbain. La périurbanisation se généralisant à l'échelle du territoire français. Voilà. Alors, un point très important, donc vous voyez l'importance du phénomène, c'est dynamique. Un point très important, la population moyenne des communes périurbaines. En 1999, et ça n'a probablement pas beaucoup évolué, on avait 820 habitants. 820 habitants, ça veut dire que ces 820 habitants, en général, décident, via leurs élus, de l'urbanisme de leur commune. Ça se décide à cette échelle-là, dans les communes périurbaines. Je sais bien que, vous le savez tous, qu'il y a un certain nombre de contraintes avec les documents de planification, etc., etc., qui s'imposent à ces communes. Enfin, globalement, on peut dire quand même qu'elles ont un fort pouvoir, une forte latitude pour décider de leur urbanisation. Alors, à quoi ça ressemble ? Le périurbain, en France, est très divers. C'est plus ou moins diffus. Les maisons sont plus ou moins sont construites sur des parcelles plus ou moins denses. Vous avez de très faibles densités dans un certain nombre de communes du sud de la France, avec des parcelles de 5 000, 10 000, des parcelles avec des maisons établies sur des parcelles très grandes. Vous avez plus de densité dans d'autres parties de la France. Bon, donc les paysages sont assez variables. Là, je vous donne un exemple. Vous avez ici, pour vous repérer, donc ça c'est l'Île-de-France. On va prendre des exemples parisiens. Et voilà, là vous êtes à l'aéroport Charles de Gaulle. Ici vous avez la zone de Mitry, zone industrielle, ça doit être la zone industrielle de Mitry-Compan. L'aéroport, la plateforme de l'aéroport Charles de Gaulle n'est pas très éloignée, la francilienne non plus. Ici vous avez une ligne du TGV, donc vous voyez, vous êtes quand même pas au fin fond. Là vous êtes la limite de la Seine-Saint-Denis, la limite extérieure de la Seine-Saint-Denis n'est pas très éloignée. Vous n'êtes pas du tout au fin fond de la Seine-et-Marne, vous êtes dans la partie de la Seine-et-Marne la plus proche de l'agglomération. On est dans les premières couronnes périurbaines ici. Vous voyez à quoi ça ressemble, vue aérienne. Donc ici, vous avez une commune que je me repère bien. Chacune de ces communes, celle-ci doit faire 900 000 habitants, celle-ci la même chose. Donc un noyau villageois, ça donne à quelques lotissements de 10, 20, 30 maisons. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la vue d'en haut. Donc vous voyez, vous êtes dans une zone où a priori la pression foncière pourrait être très élevée. Vous êtes pas, les couloirs aériens sont où il y a des contraintes de constructibilité sont un peu plus au nord. Donc là, il y a voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, l'agriculture domine très fortement le paysage. Ici, une commune de ce secteur qui s'appelle Charny, 1200 habitants. Donc on voit le clocher. Vous voyez, vous arrivez par les champs sur la route, et puis vous voyez les lotissements de maisons individuelles qui entourent, qui ceinturent le noyau villageois. Ici, une autre photo. Là, c'est 900 habitants. On est plutôt proche de la deuxième couronne périurbaine, à l'ouest de Lyon, sur les piémonts du Lyonnais. Voilà. Voilà un peu quelques clichés qui permettent de se donner une idée de du type de paysage. Alors, je disais, il y a 15 000 communes périurbaines en 99, sans doute beaucoup plus aujourd'hui, donc on imagine bien qu'à l'intérieur de cet ensemble, il y a une certaine diversité de logique. Sur 15 000 communes, elles ne se comportent pas toutes de la même manière. Alors, je vais vous faire une typologie à la hache, avec trois types. C'est très très réducteur, enfin la réduction par moment elle aide à penser, ne serait-ce que pour la contester. Donc ça constitue un point de départ pour comprendre un peu ce qui se passe. Et puis je vais construire cette typologie, évidemment on la construit à partir de critères, donc à partir de la question par laquelle j'ai commencé cet exposé, celle de la pénurie foncière. Et l'idée qu'il n'y avait pas en fait une pénurie foncière, mais un foncier qui était disponible, mais pas là où on veut. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où on trouve du foncier et d'autres et qui sont a priori pas ceux où on voudrait qu'ils se trouvent, et puis d'autres endroits où on en trouve moins, en restant dans le périurbain. Alors il y a le périurbain où on construit, qui est celui du rural en voie de périurbanisation, ou des communes périurbaines toutes récentes, qui sont des communes qui souvent connaissent effectivement une croissance démographique assez forte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Assez typiquement, je répète, c'est une typologie assez schématique, donc je dresse... On va vite, mais enfin ça permet de fixer un certain nombre d'idées. Vous avez une commune qui est rurale, très fortement marquée par la ruralité, même si la ruralité a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Mais on a deux logiques principalement. Vous avez une commune qui s'était endormie, qui pendant certaines décennies, qui ne sont pas si anciennes que ça, et en tout cas qui restent dans la mémoire de beaucoup d'habitants, ont connu l'exode rural. et qui voit arriver une demande de périurbain pour habiter sur la commune. Et donc voilà une opportunité pour redonner vie à leur commune, la repeupler, rouvrir des classes qui avaient pu fermer, voire rouvrir l'école. Et puis, un autre élément quand même relativement important, c'est distribuer des droits à construire dans la population. Vous avez, d'ailleurs vous voyez souvent des communes, vous avez le maire, il est propriétaire d'un certain nombre de terrains, vous avez son premier adjoint qui est propriétaire d'autres terrains, et puis on se donne des droits à construire. Quand on sait que vous avez des facteurs 10, voire plus, qui multiplient la valeur de la terre agricole lorsque vous la mettez, lorsque vous la rendez constructive, vous avez des enjeux financiers extrêmement importants qui sont là. Alors le SNAL, dans son livre blanc, parle de, dans certains cas, de facteurs 50 ou 100 même en Île-de-France, lorsque des terrains passent de l'agricole à l'urbanisable. Donc ça, ça va en grande partie dans la poche des propriétaires privés. Donc ils ont tout un tas de très bonnes raisons. C'est, vous voyez, moi j'ai des difficultés, il faut que je prépare ma retraite, il faut que j'aide mes enfants à se lancer. Enfin bon, voilà, tout un tas de raisons pour essayer de construire un lotissement sur une partie de ces terrains. Alors tout cela est assez variable suivant les communes, parce que tout dépend de la structure foncière. Est-ce que ce sont des propriétaires qui habitent dans la commune? Est-ce que le parcellaire est très morcelé ou pas? Ça dépend aussi de sa valeur. Si c'est de la céréale, enfin si vous êtes dans des très larges parcelles céréalières dans la Seine-et-Marne, ça ne fonctionne pas de la même manière que lorsque vous avez une parcelle viticole ou lorsque vous avez du maraîchage ou des choses comme ça. Donc il y a tout un tas de variations, mais enfin il y a quand même ces deux logiques-là qui sont, je pense, tout à fait bien connues de tout le monde. Alors, il se trouve donc que tout ça, les communes rurales qui sont en limite des aires urbaines, limite intérieure, limite extérieure, ouvre assez volontiers le robinet de l'urbanisation. Et donc tout ça conduit à ce qu'on peut appeler une dispersion urbaine. J'emploie le terme dispersion urbaine, d'autres parlent d'éparpillement, parce que le terme étalement n'est pas, que j'emploierai peut-être moi-même dans cet exposé, mais n'est pas tout à fait approprié. Étalement, ça fait une nappe qu'on étale comme ça de manière continue. Alors en France, on a plutôt un persillage de l'urbain. L'urbain se développe sous forme de tâches autour de noyaux villageois. Donc, voilà, là, c'est l'aire urbaine de Lyon. Alors, en orange foncé, ça, oui, ça passe bien sur l'écran, vous avez, et en rouge, le nom des aires urbaines et l'étendue des aires urbaines en 1999, et puis l'estimation de la situation aujourd'hui. Donc l'aire urbaine de Lyon, ce serait vraisemblablement considérablement étendue. Et puis si vous allez, vous conduisez autour de Lyon, vous voyez que sur les franges de l'aire urbaine, on construit beaucoup, il y a beaucoup de maisons. Enfin, encore une fois, ça va sans doute s'arrêter, mais en tout cas, ou se calmer, mais en tout cas, on a beaucoup construit. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, c'est ce développement urbain, parce qu'après tout, très bien, ces communes se développent, elles rouvrent leurs classes, elles retrouvent vie, etc. Quels sont les problèmes? Ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'en fait, vous avez, évidemment, ce ne sont pas les personnes les plus aisées qui vont habiter dans ces communes. Ce sont des ménages qui vont là parce que ils ont un revenu mensuel de 1500 euros avec leurs deux enfants, et puis ils cherchent jusqu'où ils peuvent devenir solvables. Et trouver un terrain ou construire une maison et devenir solvable. Donc ils atterrissent dans ces communes-là. Le problème, c'est qu'ils sont assez loin des centres. Alors même si les emplois ont tendance à suivre les périurbains, ils n'y suivent pas assez, donc ils restent quand même assez éloignés. Et vous avez des coûts de mobilité qui peuvent être assez élevés. J'avais calculé quelqu'un qui vient se localiser ici dans la première couronne périurbaine de Lyon, ou qui va se localiser vers Saint-Martin-en-Haut dans les monts du Lyonnais où il y a une explosion démographique, ça représente en déplacement journalier 40 minutes de plus par jour, et à l'année, en prenant le barème des impôts, c'est pour le ménage 4000 euros de dépenses en plus, juste en plus, la localisation une quinzaine de kilomètres plus loin, ou 20, oui c'est ça, une quinzaine de kilomètres plus loin. Donc, ça représente pour des gens qui gagnent 2500 euros par mois, ou 3000, ça représente, quand je dis 2500, 3000, c'est courant, hein, le plafond du PTZ pour un ménage avec du prêt à taux zéro sur lequel je vais revenir, pour un ménage avec deux enfants, c'est 3000 euros mensuels. Hein. Donc là, je vous donne ces ordres de grandeur et beaucoup de ménages sont éligibles au prêt à taux zéro. Donc vous avez des problèmes. Alors les gens se retrouvent avec des dépenses qu'ils n'avaient pas anticipées, la contrainte d'avoir deux voitures et des situations de surendettement dont on évalue mal l'ampleur. Je ne connais pas d'enquête quantitative sur ce sujet-là, mais il y a des enquêtes qualitatives qui ont été faites notamment autour de l'aire urbaine de Toulouse par Lionel Rouget, qui sont très intéressantes et qui montrent les difficultés dans lesquelles se trouvent ces ménages. Difficultés d'ailleurs qui expliqueraient une certaine attraction pour l'extrême droite qui s'est exprimée au début des années 2000. Lui, il a enquêté, vous voyez, les familles qui étaient propriétaires de leur logement, mais qui n'avaient pas leur évier, c'était une bassine, parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour acheter, pour équiper leur cuisine. C'est des cas un peu caricaturaux, mais ça, des situations un peu difficiles. Alors imaginez le chômage, un divorce, les conséquences que ça peut avoir, ce sont des gens qui se retrouvent possiblement en camping. On en voit d'ailleurs dans la Seine-et-Marne, sur les bords de Marne, un certain nombre de campings de loisirs sont occupés à l'année par des gens qui n'ont pas les possibilités de loger ailleurs. Et puis vous avez un gros problème d'équipement insuffisant. C'est-à-dire sur les premières couronnes périurbaines dont je vais parler après, vous avez des équipements pour la petite enfance, école, classe maternelle, garderie, accueil périscolaire, terrain d'évolution, etc., qui sont assez conséquents, surtout vu la taille des communes. Mais dans ces petites communes-là, les équipements sont nettement insuffisants. Et comme vous avez en plus des ménages qui ont des temps de transport plus élevés, ils ont plus besoin que d'autres d'aide à l'accueil de leurs enfants. Alors, les gens se débrouillent sur place avec leur famille, enfin, mais c'est quand même des choses très contraignantes et c'est un vrai problème dans ces communes. Alors, les enjeux pour ces communes, aujourd'hui, on a une croissance démographique qui est sans doute à maîtriser. Alors, d'ailleurs, elles vont maîtriser la plupart en arrêtant, en devenant des communes. En rejoignant la logique des communes des premières couronnes périurbaines. Mais donc il y a un problème de besoin en équipement des nouveaux ménages, un problème de diversité fonctionnelle, il n'y a pas grand-chose d'autre que du résidentiel. Et puis peut-être qu'il faudrait organiser la croissance, utiliser notamment les bourgs, les chefs-lieux de canton, pour accueillir si possible l'essentiel de la croissance démographique. Mais là, je reviendrai peut-être un peu là-dessus. Juste une petite parenthèse sur le prêt à taux zéro, qui est une aide à acheter un logement. Donc on aide les gens à devenir propriétaires. On a une politique depuis longtemps en ce sens-là. Un des problèmes, et ça a été démontré à plusieurs reprises, c'est que ce prêt à taux zéro a tendance à renforcer la demande dans ces communes-là. Parce que le prêt à taux zéro a évolué en 2005, les logements anciens, une partie des logements anciens sont devenus éligibles à ce prêt, mais aujourd'hui, c'est quand même essentiellement, quand on regarde les cartes de localisation des logements acquis avec le prêt à taux zéro, c'est sur le lointain périurbain que ça se passe. Alors, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas conditionner le prêt à taux zéro en fonction de l'accessibilité ? Parce que est-ce qu'il est bien raisonnable de solvabiliser des ménages qui gagnent, je rappelle, donc le plafond pour un ménage en Ile-de-France, le montant du PTZ en fonds d'Ile-de-France pour un ménage de 4 personnes, c'est 25 000 euros pour un logement ancien avec un plafond de ressources de 3 000 euros mensuels. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'envoyer des ménages de ce type-là en lointaine Seine-et-Marne, hors de toute zone desservie par les transports collectifs, hormis peut-être un bus le matin et un bus le soir, avec des coûts de mobilité dont j'ai indiqué l'ampleur. Là, j'ai l'ampleur, 4 000 euros annuels, c'était juste le surcoût. Hein, je ne parle pas du coût à l'année, je parle juste du surcoût de l'éloignement par rapport à 15 km de moins. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'aider ces ménages à accéder à la propriété, d'autant plus que par rapport aux objectifs politiques de maîtrise de l'étalement urbain, ça ne cadre pas vraiment. Donc voilà, un certain nombre de questions. Et est-ce qu'on ne devrait pas essayer de rendre ces politiques d'aide à l'accession au logement cohérentes avec les politiques d'aménagement et conditionner en tout cas le PTZ par des questions de prendre en compte en tout cas les problèmes d'accessibilité. Alors, un des facteurs qui fait que la demande, parce que s'il y a de l'offre dans les communes du lointain périurbain ou des communes en voie de périurbanisation, c'est parce qu'il y a de la demande malgré tout. Alors le PTZ dont je viens de parler n'est pas responsable de tout, c'est juste un petit élément qui contribue à solvabiliser les ménages qui souhaitent accéder à la propriété et qui le font donc dans le lointain périurbain. Mais si cette demande elle existe aussi loin, c'est parce que plus près, c'est très difficile d'accéder à la propriété d'une maison individuelle. Et pourquoi c'est très difficile d'accéder à la propriété d'une maison individuelle plus près? Bah parce que les communes des premières couronnes périurbaines ferment le robinet de l'urbanisation. Il faut bien voir qu'on a complètement changé de logique dans les premières couronnes périurbaines par rapport aux années 70 et même 80. Alors ça fait déjà un moment, mais ça s'est affirmé progressivement et aujourd'hui c'est assez fort. Il y a un véritable malthusianisme foncier dans les premières couronnes périurbaines. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les pouvoirs municipaux ont changé. Encore une fois, c'est très schématique ce que je dis là, mais ça aide à comprendre un peu les logiques générales. Très classiquement, vous avez donc le conseil, je parlais tout à l'heure de la commune donc rurale en voie de périurbanisation, qui voit d'un bon œil l'arrivée de nouveaux arrivants, qui voit d'un bon œil le fait de classer des terres agricoles en urbanisables et de gagner un certain nombre de familles vont gagner de l'argent avec ça. Et là, ces deux logiques s'éteignent totalement. Pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont là, vous avez une des communes que je montrais tout à l'heure en photo aérienne, ceux qui sont là, ils ont plus envie d'avoir la vue ou d'arriver dans leur commune en traversant des champs comme ça, et d'avoir cette vue-là depuis leur maison, que d'avoir des lotissements tout autour, et pire encore, de l'habitat collectif. Hein, je rappelle que là, on est juste à côté de la Francilienne, sur cette commune. On est à 5 minutes d'une sortie de la Francilienne. Il y a 900 habitants. Et donc, l'arrivée de nouveaux habitants, c'est une menace pour la qualité paysagère, parce qu'on vient là pour un paysage, pour la proximité avec la nature et l'agriculture, enfin des espaces verts, on va dire, agricoles ou naturels, forêts, etc. Mais on vient certainement pas là, on vient là pour s'extirper de la nappe urbaine. Si vous parlez avec les gens, on s'extirpe de la nappe urbaine. D'ailleurs, c'est très important la séparation physique. L'idée de prendre avec sa voiture, d'arriver dans sa commune en traversant des champs, c'est... Ah, je prends une bouffée, je sors de l'agglomération et je me sens bien, je retourne à la campagne. Je n'appelle pas du tout des périurbains, d'ailleurs, peut-être que, comme dit Martin Vanier, ça se reconnaîtrait plus dans le terme de périruraux, mais en tout cas, certains périurbains, ça leur parle pas beaucoup. Et donc, l'arrivée de nouveaux habitants ici est une menace, plutôt, globalement. Et puis, la question de récupérer de la plus-value foncière, bah, c'est pas eux les propriétaires des terres agricoles. Donc, et eux, ils sont quoi? Ils sont propriétaires d'une maison. Et s'ils zonent les terres agricoles, c'est-à-dire ils laissent entendre que de toute façon ces terres agricoles ne seront jamais urbanisables, que les espaces naturels, on les grignotera plus, donc s'ils bloquent l'extension urbaine, ils ont plutôt tendance, vous imaginez une maison là, sur 1000 mètres carrés de terrain, à 5 minutes de la Francilienne, évidemment, si tout autour il n'y a rien, bah, vous la valorisez si vous fermez le robinet de là. Donc d'une certaine manière, ils sont gagnants d'un point de vue immobilier. Mais là, on n'est plus dans une logique foncière, on est dans une logique immobilier. Et voilà. Et puis en plus, ils ont tout le discours sur le paysage, l'environnement, etc. On protège notre environnement. Et voilà. Donc, alors j'ai mis, oui, le syndrome du dernier arrivé. C'est ça qui... Le dernier entré ferme la porte derrière lui. Alors, c'est comme quand vous allez visiter un endroit très beau où il n'y a personne et vous n'avez absolument pas envie qu'il y ait d'autres gens qui viennent polluer le paysage dont vous jouissez. C'est pareil, vous arrivez, vous n'avez pas du tout envie que d'autres viennent derrière vous, le dernier arrivé, donc ferme la porte derrière lui. Alors le premier qui arrive, il essaye, mais il se trouve qu'il n'est pas majoritaire, le deuxième, et puis dans une commune rurale qui a 300-400 habitants, quand elle est passée à 800-900 000, et ben voilà, c'est la logique de la périurbanité qui s'impose. Et donc, on a là une forme de malthusianisme. Alors, d'ailleurs, quand vous parlez avec les gens, une image qui ressort assez fréquemment dans les discours, c'est celle du village d'Astérix. Les gens disent « Ah ben moi j'habite dans le village d'Astérix sans les palissades ». Alors c'est une image sympathique, le village d'Astérix, mais qui en même temps... Alors ici l'envahisseur, c'est pas l'armée romaine, mais c'est la nappe urbaine. Surtout, alors en plus là dans cette commune-là, vous imaginez, vous avez l'aéroport Charles de Gaulle, les premiers sont arrivés dans les années 70, l'aéroport a ouvert à cette époque-là... Heureusement, les avions passent un peu plus loin, on les entend un tout petit peu, mais vraiment, ils ont, il y a le TGV qui est arrivé, etc. Donc, la nappe urbaine, ils la sentent venir quand même. Hein. C'est pas comme dans les centres-villes où ça bouge pas trop. Là, la nappe urbaine, ils la sentent avancer. Et donc, ils se sentent vraiment encerclés de toutes parts par les infrastructures, par les développements urbains, partout. Et donc, ils essayent de se